Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 3 mars 2016. Au sommaire ce soir.
Libération en Guinée, des militaires accusés dans l'attaque sur la résidence du président Alpha Condé en 2011.
Centrafrique, l'armée de résistance du seigneur de Joseph Kony a enlevé plus de 200 personnes depuis le début de l'année, affirment deux ONG américaines.
L'opposition gabonaise tente de barrer la route à la candidature du président Ali Bongo Ondimba.
Visite au Burkina Faso du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.
Je félicite le président pour son engagement à promouvoir la réconciliation nationale.
Ça a été l'occasion aussi de parler de sécurité de la sous-région.
Et crise migratoire en Europe, le président du Conseil de l'Europe avertit, la Grèce ne sera plus un pays de transit.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En Guinée, un tribunal militaire a remis en liberté aujourd'hui les militaires accusés de désertion lors de l'attaque de 2011 contre la résidence du président Alpha Condé. Parmi eux, l'ex-chef d'état-major de l'armée, le général Nuhu Thiam. Reportage à Conakry de Zakaria Camara.
Pendant les débats, les avocats de la défense ont parlé de règlement de compte contre les officiers. Mais selon Elhaj Sekou Keïta, président du tribunal militaire, l'ancien chef d'état-major général de l'armée guinéenne est coupable du délit de désertion avec la circonstance aggravante liée d'une part à son rang d'officier et de l'autre à la tentative de renversement de l'ordre constitutionnel par la violence. Les 5 autres officiers sont déclarés coupables du délit de violation de consigne. Le président du tribunal militaire parle de punition humaine et pour sa première audience, la cour condamne les 6 officiers à une peine équivalente au temps de leur détention respective et au paiement d'un franc guinéen symbolique. Les prévenus sont rentrés à la maison car tous ont passé en prison le temps minimum prononcé contre eux. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La guérilla ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, a enlevé plus de 200 personnes depuis le début de l'année dans l'est de la Centrafrique, selon deux ONG américaines. Les précisions de John Lyndon.
Sur 217 personnes enlevées depuis le 1er janvier 2016 par le groupe dirigé par Joseph Kony, 54 sont des enfants et 42 d'entre eux sont toujours en captivité ou portés disparus, selon un rapport établi par deux organisations basées à Washington. La LRA a déjà enlevé 2 fois plus de personnes en Centrafrique depuis le début de l'année 2016 qu'elle ne l'avait fait en 2015. En République démocratique du Congo voisine, les attaques et les enlèvements du groupe ont ralenti ces derniers mois après avoir atteint des sommets entre janvier et août 2015. Selon l'ONU, la LRA a tué plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants, d'abord dans le nord de l'Ouganda, puis au gré de son exil dans les pays voisins. Créée en 1987 avec l'objectif de renverser le président ougandais Yoweri Museveni, elle s'est forgée une effroyable réputation au fil de ses exactions en Ouganda, dans le Soudan du Sud, dans le nord-est de la RDC, puis en Centrafrique.
Et dans l'est de la République démocratique du Congo, 3 employés de l'ONG Save the Children ont été enlevés mercredi par des hommes armés non identifiés. Leur convoi a été attaqué dans le territoire de Lubero, dans le Nord Kivu. C'est ce qu'indique l'organisation internationale qui dit être sans nouvelles des otages.
Présidentielle au Gabon, l'opposition appelle à faire barrage à la candidature du président Ali Bongo Ondimba, le qualifiant de faussaire. Le président de l'Union nationale accuse le président Ali Bongo d'avoir présenté un faux acte de naissance et assure qu'il est disqualifié pour la course à la présidence. Dans la perspective de la présidentielle à venir, l'UN et d'autres formations d'opposition ont formé un front uni pour désigner un candidat unique face au sortant. Cette unité a volé en éclat avec l'annonce par Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine et qui fut l'un des plus proches collaborateurs d'Omar Bongo Ondimba, de sa candidature contre l'avis d'une partie des membres du front. Le vote est prévu pour le second semestre 2016. 3 hommes sont dans la course. Ali Bongo, Jean Ping et Dieudonné Minlama.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est dit aujourd'hui à Ouagadougou préoccupé par les attaques terroristes dans le Sahel. La riposte contre le terrorisme doit être globale, dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, a déclaré M. Ban, qui s'exprimait à l'issue d'un entretien au palais présidentiel avec le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. Le président Kabore a affirmé de son côté que les Nations Unies se sont engagées à aider la sous-région dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, surtout par la prévention. Nous reviendrons sur cette visite en seconde partie d'émission.
Du nouveau concernant l'affaire des écoutes téléphoniques au Burkina Faso, souvenez-vous, une conversation enregistrée attribuée à Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina, et Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, laissait entendre que ce dernier était impliqué mi-septembre dans la tentative de coup d'État contre le régime de transition à Ouagadougou. Eh bien, un expert français met désormais en doute l'authenticité de cet enregistrement téléphonique. Une intervention militaire coalisée contre le groupe État islamique en Libye se prépare, même si le gouvernement d'union se fait toujours attendre dans ce pays, Idriss Fall.
Le général Donald Bold, commandant des forces spéciales américaines en Afrique, a révélé au Wall Street Journal qu'un centre de coordination de la coalition est en place à Rome pour préparer cette intervention en Libye. Domenico Rossi, sous-secrétaire d'État italien à la Défense, a aussitôt réagi en disant qu'il n'y avait pas d'état-major de guerre, mais des discussions sur une coalition. Cependant, le Charles de Gaulle, porte-avion français, a quitté le Golfe pour la Méditerranée officiellement pour des manœuvres conjointes avec la marine égyptienne. Londres a aussi annoncé l'envoi de 20 soldats britanniques en Tunisie pour aider contre les infiltrations de djihadistes venant de Libye. Et l'armée américaine a déjà effectué au moins 2 raids en Libye, dont celui du 19 février contre un camp du groupe État islamique près de Sebrata, qui avait fait près de 50 morts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après une rencontre avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras à Athènes aujourd'hui, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a mis en garde les migrants économiques de ne pas venir en Europe, ajoutant que la Grèce ne sera plus un pays de transit. Maëlys Segal.
Donald Tusk a déclaré qu'exclure la Grèce de l'accord de Schengen n'est pas une option pour résoudre la crise. Il a affirmé que la Grèce fait partie de Schengen, de la zone euro et de l'Union européenne et le restera. La Grèce, qui était déjà dans une situation financière tendue avant le début de la crise des migrants, a demandé plus de 500 millions de dollars à l'Union européenne pour l'aider à organiser ses dépenses. Pour gérer la crise des réfugiés, le commissaire à l'aide humanitaire de l'Union européenne, Christos Tilanides, souhaite que l'UE l'aide à hauteur de 760 millions de dollars. La proposition doit encore obtenir l'approbation du Parlement européen et des États membres. Donald Tusk va maintenant rencontrer le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu à Ankara et le président Erdogan à Istanbul vendredi. Il prévoit d'offrir à la Turquie une aide pour réduire le flux de migrants depuis le Moyen-Orient et depuis l'Afrique du Nord. Tusk a dit qu'il ferait pression pour mettre en œuvre l'accord signé avec l'Union européenne en novembre pour freiner le flux de réfugiés.
Le président français François Hollande et le Premier ministre britannique David Cameron ont demandé ce jeudi à la Russie et au régime syrien de cesser immédiatement les attaques contre l'opposition modérée en Syrie, selon un texte signé lors d'un sommet franco-britannique à Amiens. La France et le Royaume-Uni demandent à la Russie et au régime syrien de mettre fin immédiatement aux attaques contre les groupes de l'opposition modérée et de cesser les violations qui compromettent les perspectives de paix et menacent d'aggraver de manière dramatique la crise des réfugiés, affirme ce texte.
Et la France et la Grande-Bretagne vont investir plus de 2 milliards d'euros dans un programme commun de fabrication de drones de combat opérationnels à l'horizon 2030, selon une déclaration signée aujourd'hui par les deux pays lors d'un sommet franco-britannique à Amiens. L'objectif ultime est de mettre au point un drone de combat capable à l'horizon 2030 d'effectuer notamment des missions d'observation et de surveillance, d'identifier des cibles et d'effectuer des frappes, d'après le ministère britannique de la Défense.
L'ancien assistant d'Hillary Clinton, qui l'a aidé à installer son serveur de messagerie électronique privée quand elle était secrétaire d'État, s'est vu accorder une immunité par les enquêteurs qui vont pouvoir l'interroger sur ce dossier sans qu'il risque de poursuite. La candidate démocrate à la présidentielle américaine est embourbée depuis un an dans une controverse sur ses dizaines de milliers d'emails lorsqu'elle pilotait le département d'État entre 2009 et 2013. L'utilisation d'un compte privé à des fins professionnelles, bannie par les règles de l'administration, lui a valu d'être vivement critiquée par ses adversaires républicains qui lui reprochent d'avoir mis en péril la sécurité nationale des États-Unis en n'utilisant pas les serveurs officiels sécurisés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Ethiopian Airlines est le transporteur public le plus rentable d'Afrique. Selon l'Association internationale du transport aérien, IATA, le groupe a généré un profit beaucoup plus élevé que ceux des concurrents africains réunis. Pour le PDG T-World, Gebre Mariam, le groupe progresse de 20 à 25% par an, à la fois en recettes et en avions. À la fin 2015, la compagnie affichait un profit net de 3,5 milliards de birr, soit 134 millions d'euros. Elle a aussi fait passer le nombre de ses routes de 69 à 89 en 5 ans. Le groupe éthiopien détient par ailleurs 40% du togolais Aski Airlines et 49% de Malawian Airlines. Emploi des jeunes maintenant au Gabon, la Banque mondiale autorise l'octroi de 100 millions de dollars pour développer les compétences de la jeunesse. Le chômage y frappe 35,7% des jeunes de 15 à 24 ans. L'institution de Bretton Woods avait déjà approuvé 100 millions de dollars en début d'année pour la deuxième phase du projet d'infrastructure et de développement local du Gabon. Médias et communications à présent, la Côte d'Ivoire autorise trois nouvelles sociétés à distribuer des services de radiodiffusion sonore et de télévision. Le chinois Star Times, Aquaba Télé SA et TVcom Côte d'Ivoire devaient chacun déposer une caution de 100 millions de francs CFA pour entrer en concurrence avec le bouquet de Canal+, jusque-là le seul autorisé.
Voilà pour la Minute Éco, merci Arzuma.
Passons tout de suite à la page sport, présentée ce soir par Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Londres rend hommage à Mohamed Ali.
Oui, une paire de gants historiques, des morceaux de sa maison d'enfance et une série de souvenirs sont exposés à Londres, Gabi. Un hommage au plus grand boxeur de tous les temps, le poids lourd Mohamed Ali dit Cassius Clay. L'exposition qui ouvre vendredi jusqu'en août à l'O2 Arena retrace le parcours du boxeur, de son tendre âge à sa brillante et brutale carrière jusqu'à son entrée dans le mythe politique et culturel.
Coupe d'Italie, la Juve a souffert pour rejoindre l'AC Milan en finale.
Oui, la Juventus Turin a éprouvé des pires difficultés pour battre l'Inter de Milan. Il a fallu aller au tir au but, les deux équipes ayant gagné sur le même score de 3 à 0. À l'aller, c'était pour la Juve et au retour pour l'Inter ce mercredi.
Zidane salue le dévouement de ses joueurs.
Oui, il le fallait. L'entraîneur des Meringues avait pointé du doigt un problème d'engagement après le derby perdu contre l'Atlético Madrid 1 à 0 le week-end dernier. Mais hier, malgré l'infériorité numérique, le Real a battu les 20 3 à 1.
Parlons de l'Euro 2016, Eric. Deschamps, en termes d'organisation, aucun souci, dit-il?
Oui, le sélectionneur de l'équipe de France a assuré qu'il n'y avait aucun souci en termes d'organisation de l'Euro 2016, qu'on venait de le dire, Gabi. C'était lors d'une réunion avec ses homologues qualifiés aujourd'hui à Paris pour évoquer les questions organisationnelles.
Retour sur le Mondial 2006, soupçons de corruption, l'Allemagne attend les premières réponses.
Ces allégations qui entachent depuis des mois son Mondial 2006 portaient sur un virement douteux de 6,7 millions d'euros. L'enquête mandatée par la Fédération allemande de football, le DFB, doit confirmer ou infirmer si son Mondial avait été acheté. Et Beckenbauer a reconnu une erreur, mais assurant toujours qu'il n'y avait pas eu de voix achetée au sein de la FIFA.
Jeux Olympiques 2020, le comité d'organisation rejette les accusations de corruption.
Oui, le directeur général du comité d'organisation de ces JO 2020 considère que ces allégations sont au-delà de l'entendement, Gabi, précisant que Tokyo proposait le meilleur dossier.
Et en basket professionnel nord-américain, mon équipe n'est pas si mal que ça, Eric.
Oui, comme les Golden State Warriors.
Ah, il ne faut pas mentionner ça dans la même phrase.
Ton équipe
les San Antonio Spurs.
Voilà. Ouais, ils ont signé leur 51e victoire en 60 matchs cette saison, la 29e consécutive à domicile où ils sont invaincus une saison ahurissante, Gabi, et San Antonio a battu Détroit 97-81. Les Clippers ont gagné contre Oklahoma City, Boston a battu Portland, Toronto a battu Utah, Denver a battu Lakers, Houston a battu la Nouvelle-Orléans, Memphis a battu Sacramento, Milwaukee a perdu face à Indiana.
Merci Minnesota. Eric, et Washington a battu Minnesota.
Oui, il fallait dire Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce jeudi, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Place au dossier du jour.
Et séjour à Washington de la présidente de la transition centrafricaine à l'invitation de la Banque mondiale, Madame Catherine Samba-Panza a pris part dans la capitale américaine à un sommet sur les pays fragiles. Dans un entretien accordé à Tatiana Mosso, elle a parlé de sa visite, mais aussi des défis qui attendent son pays après l'élection de son successeur, Faustin Archange Touadéra.
Il était important que je remercie le gouvernement américain et particulièrement le secrétaire d'État John Kerry pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié pendant la transition. Le gouvernement américain a été à mes côtés, a été aux côtés des populations centrafricaines sous diverses formes d'appui et il était important que je leur exprime ma gratitude et celle du peuple centrafricain tout entier. Et nous avons abordé une série de questions. Bien entendu, il est satisfait de ce que la transition ait eu beaucoup d'avancées, mais il est également préoccupé parce qu'il reste de nombreux défis à relever.
On va y revenir. Voilà. Madame la Présidente, vous avez été l'une des rares femmes sur le continent à être à la tête d'un État, et un État qui était dans une situation compliquée. Le 31 mars s'annonce la fin de cette transition. Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli ?
L'objectif premier de la transition, c'est d'organiser des élections pour permettre un retour à un nouvel ordre constitutionnel. Et à ce sujet, je peux dire que j'ai accompli ma mission, puisque j'ai pu organiser des élections présidentielles et législatives dans des conditions acceptables et avec des résultats qui sont acceptés par l'ensemble des Centrafricains. Alors je peux dire que j'ai accompli ma mission.
Alors, le prochain gouvernement va avoir plusieurs défis, vous l'avez dit, vous en êtes consciente. Parmi ces défis, il y aura aussi la question du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion, du rapatriement. Est-ce que vous pensez, avec l'expérience que vous avez eue, que les bandes armées qui contrôlent aujourd'hui les mines d'or, les mines de diamants, vont rentrer dans le rang ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça va se produire ?
Il faut un travail de fond pour cela. Au Forum de Brazzaville, nous avions signé des accords de cessation des hostilités et nous avons prévu dans cet accord-là le cantonnement des groupes armés, des ex-combattants. Nous comptions sur l'appui de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, pour nous aider à cantonner ces éléments non conventionnels qui se trouvent sur toute l'étendue du territoire. Nous n'avons pas pu mettre en place, ne serait-ce qu'au moins, cet aspect de cantonnement.
La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Nous partons maintenant au Tchad. Une menace pèse sur les leaders des mouvements de jeunes à N'Djamena, à moins de deux mois de l'élection présidentielle. Un responsable du mouvement citoyen dénommé Yina en arabe local et qui signifie « nous sommes fatigués » en français, dit avoir été contraint par le service de sécurité de quitter le pays pour se mettre à l'abri. On fait le point avec André Kodmajingar.
Mise en place il y a un mois et demi, le mouvement citoyen de jeunes de toutes les sensibilités dénommé INA rend frileux les autorités tchadiennes à la veille de l'élection présidentielle. Pour preuve, Mahamat Korom, porte-parole adjoint du dit mouvement et président des jeunes du parti UNDR, Union nationale pour le développement et le renouveau de Saleh Kebzabo, reçoit quotidiennement des menaces verbales et même physiques des agents de l'ANS, Agence nationale de sécurité. Se sentant en danger, Mahamat Korom a quitté le pays. Le vice-président de l'UNDR, Célestin Topona, déplore cet acharnement contre les jeunes.
Aujourd'hui, on a contraint ce jeune cadre à quitter le pays. Selon ce qu'il nous a dit, il a été approché par le directeur général de l'ANS, qui lui a proféré des menaces. Et des intimidations, des pressions ont même été exercées sur ses parents. Devant cette situation, il s'est senti gravement en danger. Et c'est comme ça qu'il a quitté le pays il y a quelques jours. Et pour quelles raisons on menace nos militants? Nous prenons à témoin l'opinion nationale sur ce qui adviendrait de notre sécurité de façon globale, surtout les jeunes.
Pour le porte-parole du mouvement citoyen INA, Nadio Kaina, l'exil forcé de son compagnon de lutte n'entame en rien la détermination du groupe qui œuvre pour l'alternance démocratique au Tchad.
Et nous qui sommes encore sur le terrain, nous allons continuer avec la lutte. Malgré les intimidations, les menaces, la lutte va continuer. Cela ne peut en rien toucher ou bien affecter notre engagement et notre détermination. C'est un chemin que nous avons décidé de parcourir ensemble. Qu'il soit là ou qu'il n'est pas là, je crois que même là où il est, nous allons continuer la lutte. Avant d'adhérer au mouvement, nous avons vu les tenants et les aboutissants des menaces, de tout ce qui nous attendait. Et nous étions préparés à cela.
C'est dans ce climat hostile que le Conseil constitutionnel rejette 9 candidatures à l'élection présidentielle d'avril 2016 sur les 23 enregistrées. Parmi les dossiers rejetés figure celui de Yurungar Ngarledi, l'opposant historique du président Déby et de l'ancien premier ministre de la transition Fidel Mungar. Des recours ont été faits et le Conseil constitutionnel a jusqu'à demain vendredi pour se prononcer. Aussi, les organisations de la société civile, y compris le mouvement citoyen INA, lancent-elles une opération Tintamar le 10 mars prochain. Opération qui consiste à appeler les citoyens sur l'ensemble du territoire à siffler pendant 15 minutes le matin à partir de 5h30 et le soir à 21h pour appeler à l'alternance. André Kordoumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Dans Washington Forum, on fait le point sur la course à la Maison Blanche avec un retour sur le Super Tuesday, le Super Mardi. Hillary Clinton et Donald Trump s'imposent dans les primaires américaines. Alors que représente cette date clé au cœur de la campagne présidentielle? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Fin de la visite de
Ban Ki-moon au Burkina Faso. Le secrétaire général de l'ONU s'est entretenu aujourd'hui avec le président ROC Marc Christian Caboret. Au cœur des discussions, la lutte contre le terrorisme et les questions de développement dans le Sahel. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wanogo.
Cette troisième visite du secrétaire général de l'ONU au Burkina est aussi la première de l'après Blaise Compaoré. Et elle arrive au moment où le Burkina sort d'une transition et se trouve confronté à plusieurs problèmes, dont celui de l'insécurité liée au terrorisme. Le président du Faso, ROC Marc Christian Caboret, de son entretien avec le secrétaire général de l'ONU, a dit ceci suivant.
Ça a été l'occasion aussi de parler de sécurité de la sous-région Burkina Faso et dans la zone du Sahel, et où nous avons également non seulement reçu en tout cas la volonté de nous appuyer au plan technicien dont dispose l'ONU pour améliorer notre vision de la lutte contre le terrorisme et également, pourquoi pas, également dans la réorganisation de nos forces armées, mais également de nous aider également dans la sous-région à ce que nous puissions améliorer par la prévention la lutte contre le terrorisme.
Ban Ki-moon s'est d'abord essayé en langue nationale moré avant de répondre aux préoccupations soulevées par le président du Faso, ROC Marc Christian Caboret. On écoute le SG de l'ONU, Ban Ki-moon.
Le Burkina Faso revient de loin. Je félicite le président pour son engagement à promouvoir la réconciliation nationale, le dialogue politique et la consolidation des acquis démocratiques que les Burkinabés ont chèrement gagné. J'ai assuré le président de l'engagement des Nations Unies à vos côtés. Le président et moi pensons tous deux que tout en s'attaquant aux problèmes de sécurité du Sahel, doivent se concentrer sur les causes profondes de l'instabilité, la pauvreté, le chômage, l'exclusion sociale, la discrimination et l'impunité.
Après Ouagadougou, le secrétaire général de l'ONU se rend à Nouakchott, en Mauritanie, pour continuer à plaider, dit-il, pour un engagement fort de la communauté internationale à la région Sahel. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Lutte contre Boko Haram, la force multinationale n'a toujours pas lancé d'offensive majeure contre le groupe djihadiste dans la région. Au Niger, l'armée continue de sécuriser la frontière contre cet ennemi invisible. Reportage à Difa de Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique.
À quelques kilomètres de Difa, la garde nationale du Niger patrouille dans le sable. Fusil à l'épaule, la vigilance est de mise. Les combattants de Boko Haram peuvent être n'importe où. Le groupe djihadiste a été fortement diminué, mais la menace demeure, notamment les attaques kamikazes ou encore les mines. Le lieutenant Moussa Daoudarabiou est commandant de la position d'Assaga.
Oui, on fait extrêmement attention aux mines. Effectivement, nous avons formé nos hommes. Nous avons une unité spécialement pour ça, dès qu'on voit un colis piégé. Donc c'est pour cela, vous voyez, on ne prend pas la route. Dès qu'on voit que le sol est un peu mélangé, c'est suspect, on déborde de la route pour éviter de tomber.
La patrouille progresse à pied ou sur des jeeps munis de canons. Nous sommes dans Enam Kellouri. Les habitants ont commencé à revenir depuis peu dans ce village. Moussa Kadre, lui, n'est jamais parti. Il a 90 ans. Ses enfants lui apportent de la nourriture depuis un camp de déplacés voisins.
Je remercie les forces de sécurité nigériennes. Je n'ai pas bougé du village depuis 4 mois.
L'armée nigériane a su gagner la confiance des populations qui sont les premières sources de renseignements. Une relation cruciale pour gagner cette guerre asymétrique contre Boko Haram qui est juste de l'autre côté de la rivière Komadougou qui sépare le Niger du Nigeria. On retrouve le lieutenant Moussa Daoudarabiou.
500 mètres juste après les Doumiers que vous voyez, c'est le Nigeria. Certainement là-bas il y en a des combattants. Nous on reste côté Niger, on sécurise notre frontière. Maintenant, quand on aura l'autorisation de sécuriser au-delà, on le fera. Tant qu'il n'y a pas présence de l'autorité militaire de l'autre côté, on ne peut pas exclure le fait qu'il y ait des Boko Haram.
Car c'est bien là le problème, l'armée nigériane n'a pas repris définitivement Damasak ou Malam Fatori. Boko Haram peut donc encore mener des incursions dans la région de Difa. Le colonel Abdou Sidikou Issa est chef d'état-major adjoint de l'armée de terre nigérienne. Il nuance la situation.
Bien, on ne les voit pas, mais je peux vous dire que l'armée nigériane est très très active. Elle est en train de manœuvrer. Et je vous dis aussi que nous sommes en étroite collaboration, même si on ne voit pas les actions ensemble. On ne peut pas totalement parler de zone non contrôlée.
L'armée nigérienne dispose d'un droit de poursuite en territoire nigérian, où si une menace directe est détectée, l'ennemi, Boko Haram, n'est pas souvent visible comme dans une guerre traditionnelle. Mais le lieutenant Moussa Daoudarabiou reste déterminé.
Notre armée, elle est vraiment une armée jeune, républicaine, qui a l'amour de sa patrie. Et on ne cédera pas un grain de sable à qui que ce soit, même s'il faut tout y passer.
L'armée garde secret le nombre de militaires nigériens déployés dans la région. Mais selon nos informations, ce sont au minimum plus d'un millier de soldats qui assurent la sécurité de la zone. Et Nicolas Pinault, Difa, VOA Afrique.
Dossier spécial, le cauchemar des migrants africains vers l'Europe. Ils sont des centaines de milliers qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie.
We moved yesterday to Italy. What happened in the sea was this.
On est parti hier pour l'Italie. Ce qui s'est passé quand on est parti, on ne savait pas que le bateau avait des fuites. Le bateau était en train de couler. On a appelé à l'aide en Libye. On a attendu 30 minutes à 1 heure. Les secours sont arrivés. On remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. N'eussent été les secours, nous serions tous morts.
Retrouvez notre page spéciale consacrée à ce dossier sur voaafrique.com et sur Facebook.
« c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console, Nachwan Kadé, présentation, Morgane Guériec et Chérubin Dorcil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. La conversation se poursuit sur Facebook. Vous pouvez partager ce qui fait l'actualité chez vous ou ce que vous pensez de nos émissions. Posez aussi vos questions pour nos programmes interactifs et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM, à Lomé, 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.